perkeleen tontot!
Salut à tous, bienvenue sur Bike FM 106.1 dans votre émission métal Check Me Load. Vous en avez l'habitude, chaque semaine on fait un petit peu le tour de l'actu métal, un petit peu, je dis bien, parce que bien sûr, malheureusement, il y a toujours des petites pépites qui passent à travers les mailles. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux sorties pour ce 23 novembre et puis j'aurai également quelques sorties des semaines précédentes du 16 novembre notamment avec deux beaux morceaux que j'ai pas eu le temps de vous proposer la semaine dernière. On reviendra comme ça jusque courant octobre. En fin d'émission, je vous parlerai de l'interview de la semaine prochaine, puisque j'aurai l'occasion de recevoir un groupe de deathcore lyonnais, un groupe qui s'appelle He Came From Beneath. Donc voilà, je vous proposerai un petit morceau pour se mettre dans l'ambiance, pour que vous ayez le temps un peu de découvrir leur univers avant la semaine prochaine. Et puis on terminera cette émission cette semaine avec la rubrique 20 ans dans tes dents. Vous le savez, cette année, Check Me Load fête ses 20 ans. Et bah, pour célébrer ça, on s'intéresse toutes les deux semaines à un artiste qu'on écoutait au même moment il y a 20 ans, c'est-à-dire eh bien en novembre 1998. Et aujourd'hui, on va aller chercher un album qu'on a totalement oublié, j'imagine, pour la grande partie d'entre nous. Et puis, surtout, un album qui a été très mal aimé et qui mérite qu'on le remette un petit peu sur le devant de la scène et qu'on le redécouvre. Ce sera un groupe australien que je vous proposerai, mais je vous en dirai plus tout à l'heure, puisque il est l'heure de commencer avec la première sortie pour ce 23 novembre. Et ça va être un live. Ça va être un live du groupe Accept, qui s'appelle Symphonic Terror Live at Wacken 2017. Alors, je vous le prononce pas à l'anglaise, le 2017, parce que, ça m'évite de m'empêtrer, tout simplement. Accept, des lives, ils en sortent assez régulièrement, mais celui-ci, il a quelques petites particularités très intéressantes qui en font vraiment un des plus intéressants, du moins, de ce qui est sorti ces dernières années en matière de live chez nos Allemands. Donc, Accept, quelques mots quand même sur la carrière du groupe, puisque ça date maintenant, ils vont bientôt fêter leurs 50 ans, Accept. Même, c'est même cette année qu'ils fêtent leurs 50 ans. C'est un groupe qui nous vient de Solingen, qui naît en 68 sous l'impulsion du chanteur Udo Dirkschneider et du guitariste Michael Wagner, qui est depuis devenu producteur, mais ils vont quand même pas vraiment commencer en 68. C'est vraiment qu'à la fin des années 70 qu'Accept va commencer sa carrière professionnelle après l'arrivée du guitariste Wolf Hoffmann. Alors là, on est sur du heavy metal traditionnel. On peut rattacher Accept au genre musical dit speed metal. Alors, c'est une des nombreuses branches du heavy. Et la musique du combo, elle se distingue à l'époque par de nombreuses références à la musique classique, des références que le groupe a gardées, mais disons que dans les années 80, c'était encore assez singulier d'utiliser de la musique symphonique dans le métal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui le font, il y a même un mouvement métal symphonique, mais voilà, Accept, on peut les mettre presque dans les précurseurs de toutes ces influences à la Beethoven, à la Mozart, etc. La carrière du groupe, elle va être marquée par plusieurs splits, reformations. Je vous en avais un peu parlé il y a quelques semaines quand j'ai présenté le nouvel album de Yudo. Donc son line-up a subi énormément de changements depuis ses débuts, mais c'est le départ de son leader, donc justement Yudo Dirkschneider, qui a été le plus dur à surmonter pour Accept, d'autant que celui-ci a quitté la formation à deux reprises. La première fois c'était en 87 et puis la deuxième en 2005, et depuis 2009 il est remplacé par Mark Tornillo. Alors Accept avait sorti son tout premier album en 1979, mais c'est durant les années 80 que sa carrière va exploser avec des albums qui sont devenus cultes, hein. J'ai envie de vous citer Balls to the Wall, Metal Heart, Russian Roulette. Ces disques ont fait d'Accept une véritable référence du heavy metal que de nombreuses formations actuelles comme Sabaton, Hammerfall ou encore Battledeast revendiquent vraiment clairement. Les années 90, et ben comme pour tout le monde, hein, elles vont être compliquées pour nos Allemands. À l'époque, le heavy est ringard, c'est comme ça. Et c'est justement avec l'arrivée de Mark Tornillo que Accept va renouer avec le succès. L'album Blood of Nations, qui part en 2010, va d'ailleurs scotcher pas mal de monde. Il y a trois autres albums studio qui sont sortis depuis, si je dis pas de bêtises. Il y a Stalingrad en 2012, Blind Rage en 2014, et puis le petit dernier, c'était The Rise of Chaos. C'était il y a pas très longtemps, en 2017. Et c'est d'ailleurs durant cette tournée de promo que l'album live Symphonic Terror a été enregistré sur la scène du légendaire festival Wacken Open Air, où le groupe a joué le plus grand et le plus extraordinaire spectacle de sa carrière devant 80 000 fans. C'était le 3 août 2017, jour de la sortie de l'album justement. Un spectacle qui a duré 2 heures, qui s'est déroulé en 3 parties. Dans la première, eh bien, ils ont présenté en exclusivité leurs nouveaux morceaux, et puis il y a eu quand même quelques classiques. Dans la deuxième partie, c'est le guitariste Wolf Hoffmann qui était plus sous les feux du projecteur, puisque il était accompagné d'un orchestre symphonique, et il avait présenté des titres de son dernier album solo qui s'appelle Hitbanger Symphony, qui était sorti en 2016, avec donc des versions métal des plus grandes compositions classiques de l'histoire, alors du Beethoven, du Mozart, du Vivaldi, etc. Et puis enfin, dans la troisième partie, le groupe a offert au public une sélection de ses hymnes, également accompagnés par l'orchestre symphonique, alors tels que Princess of the Dawn, Fast as a Shark, Metal Heart, Warrior Breaker, qu'on va écouter dans quelques instants. Donc ça a été un véritable bouquet final pour les fans. Symphonic Terror Live at Wacken 2017, il est disponible en audio et en vidéo dans différents formats. Vous avez du DVD, du Blu-ray, du vinyle, tout ce que vous voulez, du numérique pour les plus modernes. Et en voici un extrait avec Breaker, un titre de 1980, mais vu ici, revisité en live avec l'orchestre symphonique derrière, ça envoie du lourd. We'll be right back. c'était Accept à l'instant, un extrait du nouveau live Symphonic Terror, le live Awaken enregistré en 2017. Très très gros album, très très gros live avec notamment cette partie où il y a les hymnes du groupe, dont ce Breaker avec l'orchestre symphonique. Ça prend une dimension assez incroyable. Un live que je vous conseille. Alors Accept, on sort régulièrement, ils sont pas tous super intéressants. En revanche, celui-là, il mérite le détour. En tout cas, si vous avez des amis amateurs de heavy metal bien traditionnel, ça peut être un joli cadeau pour Noël que ce Symphonic Terror. Et moi, je trouve que Marc Tornillo, il est absolument formidable. C'était vraiment le gars qu'il fallait pour succéder à Udo Dirkschneider. Je pense que il était taillé pour ce poste et il relève le défi avec vraiment beaucoup de succès. On va changer de style, on va laisser tomber un petit peu le heavy metal, on y reviendra tout à l'heure avec d'autres groupes. Là on va aller vers du metalcore plutôt, avec une deuxième sortie pour ce 23 novembre, c'est le groupe Unearth qui revient avec un album intitulé Extinctions. Alors Unearth, c'est un groupe qui vient du Massachusetts, d'une ville qui s'appelle Winthrop. Le groupe a été créé en 98, entre autres par le trio Trevor Phillips au chant, Buzz McGrath à la guitare et Ken Susie à la guitare également. Et le but du combo à l'époque, c'était d'explorer un nouveau son à la fois hardcore et metal, d'où le style metalcore, puisque c'est tout à fait ça, c'est un mélange de hardcore et de metal. Alors après un premier EP qui s'appelait Above the Fall of Man en 99, Unearth va passer à la vitesse supérieure, ils vont sortir en 2001 The Stings of Conscience, un premier album studio qui est produit par Adam D de Killswitch Engage. Mais ça va être avec l'album suivant The Oncoming Storm en 2004 que le groupe va réellement commencer à faire parler de lui, s'offrant même au passage une entrée dans le Billboard. Alors même si c'est qu'à la 105e place, c'est déjà pas mal. Et la consécration, elle sera plus très loin, puisqu'elle va arriver avec la sortie de l'album Three in the Eyes of Fire, ça c'est en 2006. Alors là, la production, elle est signée Terry Date, et c'est sur cet album qu'on retrouve un des plus fameux titres du groupe, le titre Giles. Alors, le disque va être un très gros succès commercial, rien qu'aux États-Unis, il va s'en vendre 105 000 exemplaires à peu près, et depuis, Unearth a sorti 3 autres albums, si on compte pas celui qui sort aujourd'hui. Il y avait eu The March en 2008, Darkness in the Light en 2011, Watchers of Rule, en 2014, et donc ce septième Extinction qui arrive aujourd'hui, qui est également le premier album à sortir sous le label Century Media pour Unearth. Alors cet album, il est composé de 10 titres. C'est un album qui est très sombre, qui dresse un constat plutôt amer de notre civilisation. La mort, la perte, la tragédie sont des thèmes récurrents dans ce nouvel opus. Il est pas du tout original ni révolutionnaire musicalement parlant. N'empêche que la musique du groupe reste extrêmement efficace, extrêmement percutante. On peut dire que Unearth chasse ici sur les terres, sur des terres qu'elle connaît bien, mais dont elle maîtrise et connaît chaque recoin. Donc Extinction, je pense que c'est un album qui devrait largement combler les attentes des fans. D'ailleurs, en voici un extrait avec le titre que j'ai préféré moi dans cet album, ça s'appelle Incinerate. Voici Unearth sur Back FM. Incinerate the tyrants! Les gars de Nurse sont de retour avec l'album Extinction et ils sont pas contents. On vient d'en avoir la preuve avec ce titre Incinerate, donc extrait de ce 7e album qui est tout frais paru. Nurse du metalcore qui a déjà fait ses preuves il y a suffisamment longtemps pour être parmi les groupes les plus reconnus. Donc voilà, pour les amateurs, un album à découvrir de toute urgence. Vous êtes toujours bien sûr dans l'émission Check Me Load. C'est votre émission metal qui fait comme chaque semaine un tour de l'actu. Et bah pour ce 23, il y a d'autres sorties hein, le 23 novembre, mais voilà, je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que j'ai décidé de m'intéresser maintenant au 16 décembre avec le groupe Chrome Division d'abord, avec un nouvel album qui s'appelle One Last Ride. Alors qui est Chrome Division? C'est un groupe norvégien qui nous vient d'Oslo, qui a été fondé en 2004. Mais qui n'a pas été fondé par n'importe qui, puisque c'est en fait la création de Shagras, le chanteur de Dimmu Borgir qui est un des poids lourds du black norvégien. Mais attention, rien à voir, puisque avec Chrome Division, excite le black symphonique et les ambiances malsaines, place au hard rock et au heavy metal old school à la Motorhead, donc rien à voir. Le groupe avait d'abord sorti 3 albums dans cette lignée très heavy rock aux influences assez 80, assez portées 80s. Il y avait eu Doomsday Rock'n'Roll en 2006, il y avait eu Buzz Broad and Beelzebub en 2008, et puis Sunrung Knockout en 2011. Et ensuite, ça va un petit peu évoluer, puisque avec Infernal Rock Eternal, eh bien Chrome Division va passer à la vitesse supérieure en proposant des compos plus variés, de plus en plus orientés vers un rock'n'roll bien graisseux. Un nouveau souffle peut-être en partie dû à l'arrivée d'un deuxième guitariste qui s'appelle Damage Carlson, qui est un ex-Breed, et qui a apporté avec lui pas mal d'idées nouvelles, que ce soit en matière de compos, mais aussi de matériel, parce que, par exemple, il a apporté avec lui le style guitare, la pédale wah-wah, et même la fameuse Talkbox, qu'utilisaient beaucoup de groupes de hard rock dans les années 80. Pour rappel, parmi les plus célèbres, il y a eu Aerosmith, Def Leppard, Scorpion ou Bon Jovi, hein, pour n'en citer quelques-uns. Allez voir ce que c'est cette fameuse Talkbox, j'arrive pas à le prononcer, c'est pourtant pas bien compliqué. Ça va vous rappeler plein de souvenirs. Alors ça, c'était il y a déjà 4 ans. On se demandait même si Chrome Division pourrait, au vu des emplois du temps de ses musiciens, produire un 5e opus. Et bien ça y est, c'est chose faite, donc avec One Last Ride, qui a une semaine aujourd'hui, qui est un album résolument orienté vers un heavy metal rapide, mais qui transpire quand même le hard rock bien huileux, grâce notamment à des riffs de guitare qu'on voit bien. Alors ça, c'est Monsieur Shagras qui est à la guitare. Il y a aussi dans cet album l'influence du dieu Lemmy, hein, dont le fantôme ne plane jamais bien loin. Il est très très présent en ce moment. Lemmy, il a jamais été aussi présent que depuis qu'il est mort. C'est assez incroyable. Là, on passe vraiment au rang de mythe, hein, pour ce musicien. Pour revenir donc à l'album One Last Ride, alors si son prédécesseur florait bon les années 80, eh bien lui, avec des passages assez différents, serait plutôt orienté dans un son des années 90, ce qui permet en fait à Chrome Division d'élargir encore un peu plus sa palette musicale. Alors concernant les paroles des morceaux, là elles sont loin de briller par leur finesse ou leur originalité. Bon, en même temps ça tombe bien puisque c'est pas ce qu'on leur demande. En gros, Chrome Division, alors là je réduis un peu le truc, hein, mais il nous parle de boire du whisky le matin, de rencontrer des filles chaque soir, des thèmes qui sont finalement chers au rock'n'roll, et ce depuis la nuit des temps. Donc ce que je vous propose, c'est d'enfourcher votre moto, vous remontez le col du perfecto, on écoute Chrome Division avec le titre I'm on fire tonight, c'est tout de suite, c'est dans Check Me Load. We'll be right back. assez simple mais efficace. Envoie dans le mille, c'était Chrome Division à l'instant avec le titre I'm on Fire Tonight, extrait du nouvel album One Last Ride paru la semaine dernière. Un morceau là avec quelques petites effluves à la AC/DC qui n'étaient pas désagréables du tout. Un album pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont envie voilà, de prendre une bonne dose de son et puis de se faire du bien. Voilà, Chrome Division, c'était à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Alors là, on va changer encore radicalement de style. On va aller sur quelque chose d'assez singulier avec le groupe Suidakra qui a sorti aussi le 16 novembre un nouvel album qui s'appelle alors Simbrick Yarns, qui est sorti en version numérique. Par contre, pour la version physique, là, il va falloir attendre un petit peu puisqu'elle va arriver le 7 décembre. Suidakra, c'est un groupe allemand qui nous vient de Düsseldorf, qui a été créé en 94, au départ sous le nom de Glorification, et son créateur, eh bien, ses créateurs, ce sont le chanteur-guitariste Arkadiusz Antonik et le batteur Stefan Meuler, qui lui a quitté le groupe en 2000. Alors là, on est sur un mélange de death metal mélodique et de folk metal. Le groupe utilise beaucoup d'instruments dits traditionnels, comme par exemple la cornemuse, le tin whistle ou encore le violon. Et son univers musical, eh bien, il tourne principalement autour de la culture et de la mythologie celte. Alors, en 24 ans de carrière, Suidakra a sorti pas moins de 13 albums studio. Même si il est beaucoup moins populaire que d'autres formations du genre comme Antiferu, Meluveissi ou Tourissas, Suidakra fait quand même malgré tout partie des fers de lance de cette scène folk metal, hein, puisque le combo tourne énormément aux quatre coins du globe, après s'être produit en Espagne, au Portugal, en France bien sûr, en Suisse, en Turquie, au Canada, aux États-Unis et même en Chine, Suidakra a été en 2014 le tout premier groupe de métal à faire 6 dates en Inde, donc ouais, c'est même des précurseurs. Et puis donc la semaine dernière, nos Allemands ont sorti Simbrick Yarns, c'est leur nouveau concept album. C'est leur spécialité, hein, d'ailleurs, ce format de concept album. Et c'est un disque qui s'inscrit, 100% dans la mouvance folk médiévale. Un disque qui s'articule autour d'une histoire de chevaliers, de magie noire et d'occultisme qui fera plaisir aux amateurs d'heroic fantasy notamment. Par contre, alors là, ceux qui vont être déçus, c'est les amateurs de grosses guitares puisque le groupe a opté pour un son acoustique. Et oui. Ce qui n'empêche pas le disque d'avoir une dimension quand même très épique, et bah tout ça en fait ça lui donne presque un côté de musique de film ou de jeu vidéo, vous allez voir avec l'extrait qu'on va écouter, c'est très réussi je trouve, et avec Simbrick Yarns, ben on peut dire que Suidakra franchit un nouveau cap. On en écoute tout de suite un extrait avec un titre qui s'appelle Snake Henge. On va se calmer un petit peu pendant 4 minutes et puis on s'agacera de nouveau tout de suite après. We'll be right back. C'était Suidakra sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, un extrait du nouvel album Simbrickerns qui est paru la semaine dernière, et le morceau qu'on vient d'écouter c'était Snake Henge. Je trouve que ce titre conviendrait tout à fait bien dans la BO de Game of Thrones par exemple, voilà. C'est très agréable à écouter. Voilà, si vous avez pas peur de la musique acoustique, si vous êtes amateur de folk metal, c'est un album à découvrir absolument. C'est très réussi, Suidakra, donc groupe qui nous vient d'Allemagne. On va retourner vers du heavy metal maintenant avec un groupe assez ancien qui fait son grand retour actuellement. C'est un groupe qui s'appelle Fifth Angel et qui a sorti le 25 octobre un album intitulé Third Secret. Alors Fifth Angel, je vous les présenter parce que pas sûr que vous les connaissiez. Ils sont originaires de Seattle. Le groupe se fonde en 1983. Encore aujourd'hui, il garde deux de ses membres fondateurs. Il y a le guitariste Ed Archer et le batteur Ken Marie qui... Lui d'ailleurs, il s'est également illustré au sein de plusieurs autres formations, puisqu'il a été un temps dans Accept, justement, dont on a parlé en début d'émission. Il a été également dans Bonfire, dont on a parlé la semaine dernière. On l'a vu aussi avec House of Lords, aux côtés d'Alice Cooper, donc il a un beau CV. Et actuellement, le duo est aussi accompagné du chanteur Kendall Bechtol, qui succède à Ted Pilot, et du bassiste John Mako, qui, alors tous les deux, ils ont rejoint le groupe au milieu des années 80. Pour ce qui est du style, on est sur du heavy metal pur jus, plus précisément sur du power metal, encore une des nombreuses branches du heavy. Et côté discographie, eh bien, on peut dire que malgré ses 35 ans de carrière, Fifth Angel n'a pas beaucoup sorti d'albums, puisqu'en tout et pour tout, il y en a eu 3. C'est pas beaucoup en 35 ans. Le premier, c'était en 1986. Il s'appelait tout simplement Fifth Angel. C'est un album qui avait été très bien accueilli, qui avait attiré l'attention d'Epic Records, avec qui le groupe va signer et sortir en 1989 un deuxième album qui s'appelle Time Will Tell. Mais on en revient toujours à ces fameuses années 90. Avec elles vont arriver le tsunami musical qui est le mouvement grunge, qui va mettre à terre bon nombre de formations métal dites traditionnelles. Et Fifth Angel va en faire les frais de cette toute nouvelle scène qui va naître dans sa propre ville. Parce que dans les années 90, quand on était un groupe de Seattle, on avait intérêt à faire du grunge si on comptait faire carrière. Du coup, Fifth Angel va complètement disparaître de la circulation jusqu'en 2010. Cette année-là, sa reformation va être officiellement annoncée. Une reformation qui va ne se concrétiser qu'en 2017 avec la signature du groupe sur le label Nuclear Blast. Et donc, 29 ans après son dernier album en date, Fifth Angel sortait fin octobre Third Secret, un troisième album et surtout un retour éclatant. Avec le retour en grâce du son des 18, c'était le moment ou jamais pour le groupe de se glisser dans la brèche. Le son de Third Secret est en effet très typé de ce que la scène heavy américaine savait faire à l'époque, avec quand même une belle touche de modernité, ça il faut le souligner. Sur cet album, il y a 10 morceaux qui sont racés, qui sont massifs, il y a une rythmique qui est solide, des guitares qui s'offrent de sublimes parties, un chant qui est bien puissant et puis des arrangements qui sont subtils. C'était un album qui était totalement inattendu et qui s'avère être une véritable belle surprise de cet automne. Donc pour tous les amateurs de heavy, voici Fifth Angel avec le morceau titre, le morceau Third Secret. Yeah. le retour éclatant de Fifth Angel sur Bike FM 106.1 dans l'émission Check Meload. On vient d'écouter le titre Third Secret, extrait de l'album du même nom paru fin octobre. Groupe donc de Seattle, fondé dans les années 80, qui a pas survécu aux années 90 et qui l'a fait un beau pied de nez à tout ça, en revenant de façon vraiment flamboyante et en se moquant bien de pas mal de groupes des années grunge qui eux non plus n'ont pas survécu à la fin des années 90. C'est un éternel recommencement que ces revivals et compagnie, mais en tout cas c'est bien, ça permet que les plus jeunes redécouvrent des choses un peu anciennes, etc. et que le métal continue à vivre et à évoluer, c'est très très bien. Le métal ne mourra jamais, j'en suis sûr. Changement de style encore. Ouais, allez, on va aller sur maintenant quelque chose de plus hard rock avec un duo qui s'appelle Northward, qui a sorti un album du même nom le 19 octobre. Et c'est pas n'importe qui, puisque ce duo est composé de la chanteuse néerlandaise Floor Jansen, qui est l'actuelle chanteuse de Nightwish. Alors je sais jamais si on prononce Floor Jansen ou Floor Jansen. Ma foi, ça restera un grand secret. Donc si quelqu'un sait parler le néerlandais, n'hésitez pas à me dire sur la page Facebook de l'émission comment on le prononce, parce que je pense que j'écorche son nom à chaque fois. Enfin, peu importe, fin de la parenthèse, puisque je vous ai pas encore parlé du deuxième musicien de son comparse, qui est un guitariste norvégien qui s'appelle Jørn Viggo Lofstad et qui fait partie du groupe Pagan's Mind. Alors c'est en 2007, lors d'un festival à Atlanta, que les deux artistes ont partagé la scène pour la toute première fois. Et c'est suite à ça qu'ils ont eu l'idée de créer ce projet musical qui est Northward. Très vite, ils vont composer de quoi enregistrer tout un album, mais ils ont tous les deux des emplois du temps bien chargés, Floor en particulier qui chôme pas, et ça va les empêcher de concrétiser ce projet Northward qui va être mis en sommeil jusqu'en 2017. Là, ils vont profiter du fait que Nightwish prend une petite année sabbatique, et ils vont enfin pouvoir se retrouver pour donner naissance à ce premier opus. Mais voilà, justement, là je vous parle de Floor Jansen ou Jansen, peu importe comment on dit, qui d'habitude officie dans le métal symphonique. Je vous parle aussi de Jørn Viggo Lofstad, qui s'est illustré lui au sein plutôt de la scène heavy metal. Alors quand ils se rencontrent, ça donne quoi? Eh bien ça donne tout simplement du hard rock, un hard rock punchy, sans fioritures, qui va, pareil, hein, ça va droit au but, hein, je vais pas aller à la fin de ma phrase puisque je ne sais pas comment la terminer. Tout ça pour vous dire que l'album a été enregistré sous la houlette du producteur Jacob Hansen, qui s'est illustré avec Volbeat notamment, mais pas que. Et ce premier opus signé Northward, c'est un véritable petit diamant brut. On sent à travers les compos une très belle alchimie entre la chanteuse et le guitariste, mais également avec les autres musiciens qui les ont accompagnés, puisqu'ils sont pas tout seuls pour enregistrer cet album. On est très loin des envolées lyriques de Nightwish auxquelles Florence Jansen nous avait habitués jusqu'ici. Là, elle peut s'en donner à cœur joie, elle navigue entre hargne et sensibilité, elle a une palette assez exceptionnelle, cette chanteuse. Et voilà, tout ça c'est énergique, ça se prend pas la tête, encore une fois ça fait du bien. Assez parlé, puisque là je m'embrouille plus que je vous éclaire, donc on va écouter Northward avec un morceau qui s'appelle « While Love Died ».
Sometimes we when you're okay, you're smiling and you're doing fine. You can charm and love, make me remember why. But that could be a fantasy to get to what you need. When your love finally breaks in your face like a mask, eyes full of fire seem to burn me down. As a dark opponent to your smiles, yeah, I'm scared. If fear invades your total why, I've seen too much of this in all your games. I've had too much of it to let you go. Goodbye.
Ça donne envie de sauter partout, ça. C'était Northward avec le titre Why Love Died, extrait de l'album intitulé Northward, duo composé de Florian Sen, la chanteuse de Nightwish, et du guitariste Jørn Viggo Lofstad, guitariste du groupe Pagan's Mind. Là, ils nous font un bon vieux hard rock des familles qui, bah, qu'on voit sa race, quoi. Ça va pas par quatre chemins. Et c'est très très bon. Un album que je vous conseille de découvrir. Voilà, c'est sans prétention, mais voilà, c'est tellement simple et efficace que c'est incontournable en ce moment. Là, on va, si on était dans la simplicité, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, d'un petit peu plus complexe, d'un petit peu moins abordable avec Coïd & Cambria, qui a sorti, il y a un moment, c'était le 8 octobre, un nouvel album intitulé Unheavenly Creatures. Alors, Coïd & Cambria, faut que je vous explique un petit peu tout ça. C'est un groupe qui vient de Nyack. Alors, où est Nyack? Ça se trouve tout près de New York. Le groupe se fonde en 1995 autour du chanteur-guitariste Claudio Sanchez et du guitariste Travis Stever. À l'époque, il s'appelle Shabuti. Et il se renomme Coïd & Cambria en 2001. Depuis ses débuts, le groupe évolue dans un style metal progressif teinté d'influences alternatives, post-hardcore, voire même pop-rock, hein, surtout sur les derniers albums. Leur premier album, il va avoir pour titre The Second Stage Turbine Blade, il paraît en 2002, et il va marquer le début d'une longue saga de concept albums qui ont tous pour thème The Amory Wars. Alors The Amory Wars, c'est une histoire de science-fiction qui raconte l'histoire du couple Coïd et Cambria Kilgannon, et l'auteur n'est autre que Claudio Sanchez, donc le leader du groupe. Parmi les albums les plus notables de la formation, on peut citer Good Apollo, I'm Burning Star, 4 volume 1, parce que, attention, il y a des volumes, etc. Ça, c'est un album qui était paru en 2005, qui avait été certifié disque d'or aux États-Unis, et c'est sur ce disque qu'on trouve notamment un des titres les plus connus qui s'appelle Welcome Home, que vous connaissez probablement. On a pu l'entendre notamment dans des jeux vidéo. Le volume 2, il était paru en 2007. Il y avait eu aussi dans les meilleurs albums Year of the Black Rainbow, paru en 2010, ou encore les deux volets de The Afterman qui sont parus respectivement en 2012-2013. Il y a un seul disque du groupe qui n'est pas un concept album, c'est The Color Before the Sun, qui était jusqu'à présent leur dernière en date, qui était sorti en 2015. Donc pour l'instant, il va faire office d'exception dans la carrière du groupe, puisque la saga The Amory Wars, elle reprend avec le nouvel album Unheavenly Creature, qui, selon les dires du guitariste Travis Stever, est la première partie d'un cycle en 5 chapitres. Alors avec ce nouvel opus, Coheed and Cambria renoue avec la complexité narrative qui est si chère à ses fans, et comme à son habitude, le groupe a structuré son album comme un livre, avec de nombreux passages dédiés à la narration, alors ça c'est intégré dans les compositions, on trouve aussi un prologue, tout un univers visuel, donc voilà, c'est tout à fait dans les habitudes du groupe. En ce sens, Unheavenly Creature pourrait très bien se rapprocher du double album The Afterman de 2012 et 2013. La grosse nouveauté de ce 9e album, eh bien, elle réside dans le choix du groupe de se tourner vers l'autoproduction, un pari assez risqué mais qui s'avère ici plutôt réussi. Jusque-là, voilà, on est sur du bon, mais je vais apporter un petit bémol, ce qui est un petit peu toujours le même dans les albums de Coheed and Cambria, c'est que Unheavenly Creature, c'est un album extrêmement dense, alors à tous les niveaux, hein, déjà il dure 1h30, il est dense aussi au niveau de ses arrangements, de la structure des morceaux. Vous ajoutez à tout cela la singularité de son univers, eh bien on arrive sur un disque qui peut s'avérer très peu facile d'accès, voire même rebuter certains auditeurs. C'est dommage parce que Unheavenly Creature, c'est un album de très belle qualité, qui nous plonge dans diverses émotions, diverses atmosphères. En plus, le tout est exécuté par des musiciens qui possèdent une technique incroyable. La technique, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et justement, ils savent aussi transmettre de la passion et du feeling dans leur façon d'exécuter ces morceaux. Donc c'est quand même à découvrir, mais plutôt pour les amateurs vraiment de musique progressive. On va écouter un extrait, un des morceaux les plus directs de l'album, j'irai. Ça s'appelle The Gutter. Voici tout de suite Coheed and Cambria.
Over my dead body, these stars will let you know it's over. Now if I had my way, I would leave you here to waste your final days buried beneath. Assured, this was not my fault, and time is getting short. So I'll be here if you want me. Oh,
Squid and Cambria sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre The Gutter, un extrait de l'album Unevenly Creature paru le 8 octobre. Voilà pour le fameux groupe de métal progressif américain. Je vais pas avoir le temps de vous passer un extrait du groupe It Came From Beneath aujourd'hui puisque bah voilà, je suis déjà en retard donc de toute façon on les aura en interview en direct la semaine prochaine donc on écoutera un extrait à ce moment-là. Si vous voulez, vous pouvez aller voir un petit peu sur internet. C'est un groupe qui vient de Lyon. Son premier album est paru le 27 octobre. Il s'appelle Clair Obscur. Donc voilà, vous pouvez, il y a des 2-3 petites vidéos qui traînent, façon de se faire une idée. En tout cas, ils seront avec nous la semaine prochaine et on va terminer avec notre fameuse rubrique 20 ans dans tes temps. Qu'est-ce qu'on écoutait il y a 20 ans? Eh bien, pour le savoir, on s'installe confortablement dans la DeLorean volante. Je rentre la date du 23 novembre 1998 et c'est parti pour un petit voyage à travers le temps. Donc aujourd'hui, on va tricher un petit peu puisque l'album que j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir est en effet paru en mars 98, mais ça n'est qu'à la fin de l'été, voire à l'automne, qu'il est arrivé chez nous et qu'il a eu les honneurs de la presse métal française. Il s'agit de l'album Skin and Bone des Australiens de The Angels. Alors, un album de très grande qualité qui malheureusement a pas connu le succès qu'il aurait mérité. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, j'avais totalement oublié son existence jusqu'à ce que je fouille dans mes archives pour préparer cette chronique, hein, tout simplement. Alors, le groupe The Angel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une formation qui est née à Adélaïde en 1974, qui a connu un succès extrêmement important en Australie, où il était un fleuron de la scène hard rock, et qui a connu aussi une certaine popularité aux États-Unis à la fin des années 70 et dans les années 80. Au début des années 90, le groupe va connaître une période assez difficile, avec le départ de deux de ses membres, le guitariste Bump Spencer, qui était en poste depuis 85, et puis le bassiste James Morley, en poste depuis 89. Le groupe est au bord du split. Du coup, le chanteur Doug Neeson, le guitariste Rick Brewster et le batteur Brent Eccles vont décider de faire appel à deux ex-membres, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Jim Hillman, qui avait déjà tenu la basse du groupe de 82 à 89, et du guitariste John Brewster, le frère de Rick, qui n'est autre qu'un des membres fondateurs de The Angels. Alors à ce moment-là, le casting semblait parfait hein, pour donner naissance au meilleur album du groupe, d'autant que les nouvelles compositions qui avaient été écrites comme au bon vieux temps semblaient des plus prometteuses. Mais malheureusement, l'enregistrement de Skin and Bone va être une véritable tannée. Après quelques temps de sobriété, le chanteur Doug Neeson va être de nouveau rongé par l'alcoolisme. Il passe plus de temps dans les boutiques de spiritueux qu'en studio, et quand il est là, et ben les prises doivent être multipliées pour réussir à obtenir quelque chose de correct. Je vous raconte pas le travail que vont avoir les frères Brewster, ça va être un travail de titan pour trier toutes les pistes avant de les confier au producteur Kevin Shirley, qui va d'ailleurs faire un excellent boulot. Alors, c'est vrai que commercialement parlant, Skin and Bone, c'est pour ainsi dire un flop, mais niveau qualité, l'album possède vraiment toutes les caractéristiques d'un véritable classique. Il est bourré de morceaux qui sont taillés pour devenir des hits, c'est bien foutu, c'est entraînant. Surtout, ne vous fiez pas à son hideuse pochette qui montre un cadavre de dingo en pleine décomposition et allez vite découvrir cette pépite de hard rock oubliée des années 90. On se guide donc avec l'excellent titre Invisible Man de The Angels. Très bon week-end sur Bike FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous!
Like living lava flows everywhere my woman goes. Faces like the living dead on Oxford Street, they're easy led. All my life I've been running uphill just to keep my world from standing still. The truth I can't ignore, that love is held in place by war. I take a walk down Lonely Street where neon lights and midnight meet. She haunts me like a siren's kiss. She doesn't know that I exist, that I can see.
my woman go.